Vous écoutez On lit pour vous.
La climatisation, quel impact sur le climat? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 mai 2026 dans la presse. Emma Boileau, une lectrice, demande: quelle est la contribution de la climatisation au changement climatique? Comme l'électricité québécoise émet peu de gaz à effet de serre, l'impact climatique de nos climatiseurs est limité aux fuites de réfrigérants et à leur contribution aux îlots de chaleur. Les réfrigérants sont des gaz à effet de serre 1000 fois plus puissants que le dioxyde de carbone, dit Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal. Il n'y a pas besoin de beaucoup de fuites pour annuler les gains ailleurs, et il y a des fuites même si on ne se sert pas du climatiseur. La climatisation était en 2016 responsable de 3% des émissions de CO2 de la planète, selon un rapport de 2018 de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, contre 12% pour le chauffage. Les fuites de réfrigérants ajoutaient 30% à la contribution de la climatisation au changement climatique. Au Québec, les pointes estivales de consommation électrique sont de l'ordre de 1 gigawatt, contre plus de 6 gigawatts l'hiver, note M. Mousseau. La climatisation contribue davantage au changement climatique que les centres de données, observe Lucas Davis de l'Université de Californie à Berkeley, qui a publié des études sur l'impact de la climatisation sur le climat. Il y a un problème avec les modèles plus anciens de climatiseurs qui avaient des fuites 100 fois plus importantes et consommaient plus d'électricité, ajoute M. Davis. Les modèles plus économiques de climatiseurs ont généralement plus de fuites, selon Ursula Eicher, physicienne spécialiste des villes durables à l'Université Concordia. Thermopompes et îlots de chaleur. Les climatiseurs, particulièrement les thermopompes, aggravent par ailleurs les îlots de chaleur parce qu'ils dégagent de la chaleur, selon Mme Eicher. Les îlots de chaleur sont justement plus fréquents dans les villes où la climatisation est plus répandue, dit-elle. Normand Mousseau estime que le problème des îlots de chaleur exacerbés par la climatisation souffre d'un manque de recherche et de réglementation. Je suis plutôt critique de l'annonce du soutien d'Hydro-Québec pour les thermopompes, dit M. Mousseau. Il n'y a aucune incitation à installer les appareils correctement. Comme le financement est lié au nombre de BTU, la mesure de la consommation d'énergie, il y a une incitation à surdimensionner. Et si on installe la thermopompe sur le côté de la maison, les voisins vont fermer la fenêtre à cause du bruit et auront besoin de climatisation eux aussi. Même si la climatisation n'émet pas directement de CO2 parce que l'électricité au Québec est surtout hydroélectrique, ne pourrait-on pas considérer qu'en se consommant moins, on pourrait exporter davantage d'électricité et faire fermer des centrales au gaz naturel aux États-Unis? En théorie, oui, mais je pense qu'il faudrait plutôt favoriser l'énergie solaire, qui, justement, est plus abondante l'été, dit Mme Eicher. En France, en 2025, une loi imposant un réglage minimal de 25 degrés pour les climatiseurs a été proposée. Je pense que ce n'est pas souhaitable. Il y a des gens qui souffrent plus de la chaleur, notamment avec l'âge, dit M. Mousseau. Il ne faut pas faire de la climatisation un enjeu de moralité. Mme Eicher est du même avis. En savoir plus. Source, Statistiques Canada. 69%. Proportion des Québécois qui avaient la climatisation en 2025. 54%. Proportion des Québécois qui avaient la climatisation en 2013. Source, Agence internationale de l'énergie. 37%. Proportion de la population mondiale qui avait la climatisation en 2016. 45%, proportion de la population mondiale qui aura la climatisation en 2030. C'était « La climatisation, quel impact sur le climat? » Un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 mai 2026 dans la presse.
La neige protège du froid, un texte paru le 17 décembre 2022 dans le magazine Québec Science. La neige a un rôle protecteur pour les plantes, les animaux et les humains grâce à sa propriété d'isolant thermique. Mais comment la neige peut-elle isoler du froid? La neige revient chaque hiver. Tu l'attends peut-être avec impatience, ou peut-être la redoutes-tu. Mais pour le bon fonctionnement de la nature, son rôle d'isolant est indispensable. Les sols recouverts d'une couche de neige sont protégés du gel. La neige protège ainsi les racines et les plantes des basses températures. Certaines plantes peuvent même rester actives tout au long de l'hiver grâce à la neige. La neige peut abriter aussi de petits animaux, comme des rongeurs qui creusent leurs tunnels pour se déplacer à l'abri des températures basses. De même, les Inuits ont tiré profit de cette propriété pour construire des maisons en neige, les igloos. Même s'ils ne sont plus utilisés comme habitation, ils sont encore utilisés comme abri par les chasseurs ou en cas d'urgence. Mais comment la neige peut-elle isoler du froid? La neige est constituée de cristaux d'eau qui sont les flocons, et à cause de leur forme, lorsque les flocons s'entassent, ils retiennent beaucoup d'air. Par exemple, la neige fraîche renferme plus de 90 % d'air et seulement 10 % d'eau venant des flocons. Lorsque la neige est tassée, elle renferme moins d'air et est moins isolante. Quant à elle, la glace ne renferme pratiquement pas d'air et n'est donc pas isolante. C'est pour ça que les murs des igloos traditionnels sont faits de neige et non pas de glace. Le rôle de l'air est donc primordial dans cette propriété isolante. C'est l'air contenu dans la neige qui permet d'isoler de l'extérieur. Il fait le tampon entre le froid de l'air ambiant et ce qu'il y a sous la neige. Par exemple, les murs en neige permettent de garder la température proche de 0 degré Celsius à l'intérieur d'un igloo, alors qu'il fait moins 20 degrés Celsius à l'extérieur. Bien au chaud, dans la neige. C'était « La neige protège du froid », un texte paru le 17 décembre 2022 dans le magazine Québec Science.
Pourquoi y a-t-il plus de morts liées aux grossesses? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 juin 2026 dans la presse. La mortalité maternelle augmente au Canada, selon une nouvelle étude internationale. Ces chiffres confirment une impression qu'avaient plusieurs obstétriciens. Les maladies chroniques, notamment avec l'âge plus avancé des grossesses, et la dépression plus fréquente sont montrées du doigt. Pourquoi la mortalité maternelle augmente-t-elle? Parce que, depuis une dizaine d'années, on ne tient plus seulement compte de la mortalité juste après l'accouchement, mais aussi dans l'année suivante. Au Canada, on fait des progrès sur la mortalité maternelle directement liée à l'accouchement peu après la naissance du bébé, dit Lynn Murphy-Colbeck, obstétricienne à l'Université Dalhousie et présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, SOGC. Mais on se rend compte qu'il y a aussi de la mortalité maternelle indirecte dans l'année suivant l'accouchement. C'est ce qui augmente. Traditionnellement, on parlait de mortalité maternelle seulement dans les 6 semaines suivant l'accouchement. Mais depuis une dizaine d'années, les médecins ont réalisé qu'il fallait tenir compte de la mortalité dans les 6 mois subséquents, et depuis au moins 5 ans, on inclut toutes les morts dans l'année suivant l'accouchement dans la mortalité maternelle indirecte, dit Elisabeth Codsey, une gynécologue obstétricienne à Sainte-Justine qui travaille beaucoup sur le sujet. Le problème, c'est que la mortalité maternelle indirecte est mal mesurée. On ne vérifie pas toujours si une femme qui meurt a récemment été enceinte, dit la docteure Murphy-Colbeck. La docteure Codsey rapporte que depuis 2022 au Québec, 13 morts ont été incluses dans la catégorie mortalité maternelle. Mais dans une réunion avec 20 médecins québécois préoccupés par la question, on a trouvé 6 autres cas de mortalité maternelle qui n'avaient pas été inclus, ajoute-t-elle. L'étude du Lancet Obstetrics, Gynecology and Women's Health, publiée fin mai, a calculé que la mortalité maternelle avait augmenté de 18% entre 2015 et 2023 au Canada, passant de 10 à 12 morts par tranche de 100 000 naissances. Quelles sont les causes de cette hausse? Les grossesses sont plus tardives. Certaines maladies qui autrefois amenaient les médecins à les déconseiller sont aujourd'hui gérables, quoique risquées, et la prévalence de l'obésité et de la dépression augmente. Toutes ces causes augmentent la mortalité maternelle indirecte. Isabelle Malamé, interniste obstétricale au CUSUM et à Sainte-Justine, donne l'exemple de certaines cardiopathies congénitales qui autrefois menaient à déconseiller une grossesse. Près de 40% des femmes ont maintenant des symptômes de dépression postpartum, note le docteur Murphy Colbeck. Dans plusieurs cas, il va y avoir de la dépression, de la psychose, des surdoses, des suicides, dit-elle. En Californie, l'un des endroits en Amérique du Nord où les données sont les plus fiables, selon la docteur Codsey, le tiers de la mortalité maternelle est dû à des maladies cardiovasculaires, 30% à des hémorragies ou des infections durant l'accouchement, 25% à des embolies et 5% à la prééclampsie, une forme d'hypertension de grossesse. En Ontario, entre 2002 et 2022, 65% de la mortalité maternelle survenait entre 6 semaines et 1 an après l'accouchement, selon un article de 2024 du Journal d'obstétrique et de gynécologie du Canada. L'épidémie d'obésité joue-t-elle un rôle? Certainement, dit la présidente de la SOGC. On a plus de cas de femmes qui tombent enceintes alors qu'elles souffrent déjà de diabète ou d'hypertension qui sont plus fréquents avec l'obésité, dit la docteure Murphy Colbeck. Entre 2000 et 2020, la proportion de femmes de 18-34 ans qui sont obèses est passée de 14% à 21%. L'âge des grossesses augmente aussi, tout comme le recours à la fécondation artificielle, deux facteurs de complication, note la docteure Murphy Colbeck. L'âge moyen de la grossesse est passé de 28 à 31 ans au Canada entre 2000 et 2024. Comment faire face à cette hausse de la mortalité? Il faut mieux arrimer les soins aux maladies chroniques à l'obstétrique, dit la docteure Malamé. Il y a une augmentation moyenne de 10% à 15% du rythme cardiaque durant la grossesse et le cœur est un peu hypertrophié, dit la docteure Malamé. Ça se résorbe la plupart du temps, mais pas toujours, particulièrement s'il y a une maladie chronique antérieure. Le traitement et le suivi des cancers durant la grossesse peuvent aussi être améliorés par une meilleure communication entre spécialités, selon elle. Pourquoi la mortalité maternelle est-elle difficile à mesurer? Parce que le passage à une mort de 6 semaines à 1 an après l'accouchement est récent. Il faut qu'il y ait une vérification pour chaque femme en âge de procréer si elle est enceinte ou l'a été dans la dernière année, dit la docteure Murphy Colbeck. Au Canada, il y a des craintes quant à la vie privée. On pourrait faire comme au Royaume-Uni, où il y a une enquête confidentielle pour chacun de ces cas, contrairement aux autres enquêtes du coroner. L'Ontario a récemment fait un pas en avant en s'assurant qu'il y aurait une recherche dans le fichier des naissances pour chaque mort de femme en âge de procréer, notent les docteurs Malamé et Codsey. Et en Ontario, il est question de faire un test de grossesse dans chaque cas, dit la docteure Codsey. Proportion des femmes enceintes qui faisaient de l'hypertension avant la grossesse en Ontario. En 2012, 0,6%. En 2021, 0,9%. Source, Journal de l'Association médicale canadienne. c'était « Pourquoi y a-t-il plus de morts liées aux grossesses ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 juin 2026 dans La Presse.
À San Francisco, les baleines sont devenues un casse-tête pour le trafic maritime. Un texte de Dorian Gallet, paru le 25 mai 2026 dans Courrier international. De plus en plus de gens aperçoivent des baleines grises dans la baie de San Francisco, rapporte CBS News. Mais si de nombreux habitants de la ville sont ravis de pouvoir observer plus fréquemment les cétacés, leur présence de plus en plus importante dans les eaux californiennes inquiète les autorités locales. En raison du changement climatique, les petits crustacés dont se nourrissent les baleines se font de plus en plus rares sur leur route de migration, entre l'Alaska et leur lieu d'accouplement près des côtes mexicaines. Ainsi, les populations de baleines grises ont connu un déclin spectaculaire, passant d'environ 20 500 individus en 2018 à environ 14 500 en 2023. Il est d'ailleurs très fréquent d'en retrouver échoués sur les plages du nord-ouest des États-Unis. En route, beaucoup souffrent de malnutrition. Ainsi, pour subvenir à leurs besoins alimentaires jusqu'à la fin de leur migration, elles se rapprochent des côtes à la recherche de nourriture, explique Science News. C'est là que les ennuis commencent, pour celles qui s'approchent de San Francisco. La baie est l'une des zones de navigation les plus encombrées du monde. Elle grouille de ferries, de pétroliers, de cargos et de paquebots, indique The Wall Street Journal. Une baleine globe-trotteuse parcourt 13 000 kilomètres. C'était à San Francisco, les baleines sont devenues un casse-tête pour le trafic maritime. Un texte de Dorian Gallet, paru le 25 mai 2026 dans Courrier international.
Cannabis puissant chez les jeunes. Des psychiatres sonnent l'alarme en Nouvelle-Écosse. Un texte de Radio-Canada avec les informations de Giuliana Griot de Lambari de CBC, paru le 31 mai 2026 sur Radio-Canada Info. Des psychiatres néo-écossais constatent une hausse marquée des cas de psychose durable chez les adolescents causés par l'ingestion de cannabis à forte teneur en tétrahydrocannabinol, THC. Des cliniciens du Centre de santé pour enfants et adolescents, IWK, à Halifax, affirment qu'un nombre croissant de jeunes patients se présentent avec des symptômes graves liés à la consommation de cannabis à forte teneur en THC. Ils affirment également que ces symptômes prennent beaucoup plus de temps à disparaître, même après l'arrêt de la consommation. Le Dr Kyle Godden, psychiatre en milieu hospitalier à l'IWK, explique que les jeunes qui consomment des produits à forte teneur en THC vivent des épisodes plus sévères et nécessitent des séjours hospitaliers plus longs. Il raconte d'ailleurs le cas d'un jeune patient qui s'est présenté à l'hôpital souffrant de paranoïa sévère, d'agitation et d'hallucination. Il était très clair, d'après son histoire, que c'était l'utilisation de ces produits à forte teneur en THC qui avait provoqué et causé ces symptômes, dit le Dr Kyle Godden. Une fois rétabli, le patient lui a confié qu'il n'avait aucune idée que le cannabis qu'il avait acheté était aussi puissant. Il s'inquiète maintenant pour ses amis qui utilisent des vapoteuses à forte concentration en THC, communément appelées des dab pens, sans bien comprendre les risques.
Cela m'a profondément manqué de voir que ce jeune avait l'impression d'avoir été abandonné par la société. Il estime qu'il n'aurait jamais dû se retrouver dans une telle situation, prend-il le temps de souligner. La directrice de la clinique de psychose chez les jeunes de l'IWK, la docteure Sabina Abidi, a aussi raconté à l'émission matinale de la radio de CBC en Nouvelle-Écosse que cette augmentation des cas reflète la hausse constante des concentrations de THC observées au cours de la dernière décennie. Il existe un lien direct entre la consommation de cannabis contenant 10 % ou plus de THC et une diminution de la concentration, de la motivation ainsi que des capacités de conduite, dit-elle. Elle confirme également que ces substances peuvent déclencher des maladies psychiatriques graves et persistantes. Des problèmes de santé à long terme. Le THC est le principal composé psychoactif du cannabis. Bien qu'il soit responsable de l'effet euphorisant généralement associé à cette drogue, Santé Canada avertit que les concentrations supérieures à 20 % augmentent considérablement le risque de problèmes de santé mentale à long terme et d'effets secondaires nocifs. Selon la docteure Abidi, certains produits vendus légalement par la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse affichent des concentrations de THC variant entre 20 et 30 %, soit davantage que ce qui était disponible auparavant. Elle travaille actuellement à une étude portant sur les cas hospitaliers. Les données préliminaires révèlent une tendance à la hausse des cas. Comme les résultats sont préoccupants, elle et ses collègues ont décidé de s'exprimer publiquement pour sensibiliser la population. Chez les jeunes qui ont des antécédents familiaux de schizophrénie ou de psychose, le THC à forte concentration peut agir comme un facteur déclencheur. Au cours du dernier mois, j'ai vu 5 personnes se présenter avec des symptômes psychotiques directement liés à la consommation de cannabis à forte teneur en THC, dit la docteure Sabina Abidi. Ce nombre est 2 fois plus élevé que ce que nous avions observé il y a seulement 5 ans, renchérit-elle. La docteure Abidi affirme que la concentration de THC dans certains produits peut atteindre jusqu'à 90 %. Elle craint que le marché actuel du cannabis à forte puissance devienne l'équivalent de l'histoire du tabac dans les années 1960. Elle invite donc les parents à bien comprendre les risques et à en discuter ouvertement avec leurs enfants. La docteure Abidi et le docteur Godin considèrent tous deux qu'il s'agit d'un problème majeur de santé publique. Ils estiment que les gouvernements doivent mettre en place davantage de mesures de protection pour empêcher les jeunes d'avoir accès à ces produits. L'un des principaux risques que nous examinons actuellement est la disponibilité de ces produits, a expliqué la docteure Abidi. Encore une fois, il est illégal pour les jeunes de moins de 19 ans de s'en procurer, mais ils peuvent y avoir accès en ligne ou par d'autres sources. À la fin de l'année dernière, le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse a ordonné aux corps policiers d'intensifier la lutte contre les dispensaires de cannabis illégaux. C'était « Cannabis puissant chez les jeunes, des psychiatres sonnent l'alarme en Nouvelle-Écosse », un texte de Radio-Canada avec les informations de Giuliana Griot de Lambari de CBC, paru le 31 mai 2026 sur Radio-Canada Info.
Quelle altitude commence l'espace? Un texte paru le 25 novembre 2022 dans le magazine Québec Science. La limite entre notre atmosphère et l'espace n'est qu'une ligne abstraite, la ligne de Kármán. Elle délimite l'espace aéronautique et l'espace astronautique à 100 km de la surface de la Terre. La conquête de l'espace te fait peut-être rêver. Mais où commence l'espace exactement? Où se situe la frontière entre notre atmosphère et le vide spatial? La réponse n'est pas si évidente, et cette frontière reste floue. D'ailleurs, Que sont réellement l'atmosphère et l'espace? L'atmosphère terrestre est la couche de gaz qui enveloppe la Terre et qui la protège des rayons nocifs du Soleil, entre autres. Les gaz restent autour de la Terre, car ils sont retenus par la gravité. Il existe plusieurs couches d'atmosphère avec des concentrations de gaz et des propriétés différentes. À l'inverse, l'espace a une densité en gaz quasi nulle. Comme la gravité attire les molécules de gaz, celles-ci sont concentrées près du sol. 90% de la masse de l'atmosphère se trouve entre le sol et 30 km au-dessus de la surface de la Terre. Ensuite, la densité diminue à mesure qu'on s'élève jusqu'à la couche la plus externe de l'atmosphère, où l'air se fait très rare. Il n'y a donc pas de limite précise entre l'atmosphère et l'espace. L'atmosphère devient de moins en moins dense, de manière graduelle, avant de s'évanouir dans l'espace. Une limite arbitraire a alors été fixée pour délimiter l'atmosphère de l'espace à 100 km de la surface de la Terre. Cette frontière s'appelle la ligne Kármán. Du nom de son inventeur, Theodor von Kármán. Mais pourquoi cette limite? En 1957, l'ingénieur et physicien a estimé la limite au-delà de laquelle il n'est plus possible de voler avec un avion ou un hélicoptère, 83,8 km. À cette hauteur, la densité de l'air est trop faible pour assurer la portance d'aéronefs. Au-delà, avec une vitesse suffisante, on peut mettre les satellites ou la station spatiale internationale en orbite sans crainte qu'ils retombent, ralentis par la résistance de l'air. Par souci de praticité, il a été ensuite décidé d'utiliser l'arrondi 100 km, un nombre plus simple à retenir et à manipuler. Voilà comment est née la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. C'était « À quelle altitude commence l'espace ?» un texte paru le 25 novembre 2022 dans le magazine Québec Science.